Team Trail Story. Édouard a beau être fidèle au pavé parisien, son terrain de jeu favori reste les sentiers. Inspiré par un père marathonien, il s'est d'abord essayé au bitume avant de tomber amoureux des chemins de terre. C'est après une violente chute en VTT, durant sa convalescence, qu'il se met en tête de participer à une folle aventure qui porte bien son nom, la Diagonale des Fous. Cette course emblématique nécessite une préparation rigoureuse. Édouard nous partagera avec humilité sa découverte du format ultra et nous fera vivre l'aventure humaine qui lui permettra de repousser ses limites et de réaliser une performance qui s'avérera être au-delà de ses espérances. Comme le dit si bien Édouard, un ultra c'est toujours un truc un peu hors du commun. Maintenant, place à Édouard, il va partager avec nous son aventure sur la Diagonale des Fous.
Mon premier trail, c'était en 2013, la Saint-Élion. Donc, c'est une course qui fait à peu près 75 km avec 2000 mètres de dénivelé. Et on part le premier week-end de décembre, la nuit, dans le froid. De temps en temps, on peut avoir de la neige, on peut avoir de la pluie. Enfin, c'est souvent des conditions assez épiques. En fait, ce qui me plaît, c'est vraiment ce côté un peu aventure et surtout sur les longues distances. C'est ce qu'on va retrouver, c'est potentiellement passer une nuit dehors. Il y a tout le côté aussi gestion de l'alimentation, gestion de l'effort. C'est pas des épreuves où on part à fond et on essaie de garder son rythme, mais il y a une vraie gestion. Et souvent aussi, on est dans des endroits qui sont magnifiques, avec des super beaux paysages. On va passer des cols en altitude, donc il y a ce côté vraiment aventure qui me plaît bien. Quand je faisais mes premiers marathons, même la Saint-Élion là en 2013, en fait l'ultra trail, enfin, n'était pas aussi mise en avant qu'aujourd'hui, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Et c'est à cette période que j'ai commencé à entendre parler de la Diagonale des Fous, de l'UTMB, qui pour moi étaient des courses presque inconcevables. Déjà, j'avais du mal à finir en forme après un marathon, donc je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait courir 160 km. Mais encore une fois, ça, en fait, ce côté vraiment aventure m'a attiré. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à essayer d'augmenter les distances au fur et à mesure. Ouais, j'ai vraiment pris du plaisir aussi à chaque fois que j'ai augmenté au fur et à mesure ces distances. Je me suis inscrit au TTP fin 2018. Ça a été aussi un élément déclencheur parce que à l'époque, je courais souvent tout seul et puis même dans mon cercle d'amis autour de moi, j'avais pas forcément des gens qui faisaient de la course à pied ou du trail. Et donc en arrivant au TTP, il y a eu deux choses. Premièrement, j'ai fait des entraînements plus structurés que ce que je pouvais faire avant. Et puis j'ai aussi rencontré pas mal de monde qui maintenant sont devenus mes amis, avec lesquels on a pu participer à plusieurs courses et se motiver à faire des week-end courses. Et à partir de 2018, en fait, j'ai commencé à petit aussi augmenter la distance. J'ai commencé avec le format marathon, puis 2019-2020, je suis passé sur des formats 80 km, puis 120 km en 2021, et puis 2022, c'était l'année où je me suis inscrit, où j'ai fait la Diagonale des Fous. La Diagonale des Fous, c'est une course qui se déroule à La Réunion. C'est la traversée de l'île de La Réunion. Une course qui fait 165 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. On part vraiment du sud de l'île et on traverse toute l'île en passant par les cirques, et notamment le cirque de Mafate, qui est très reconnu. Et on arrive à Saint-Denis, la ville au nord de l'île. C'est en ça que le tracé est assez incroyable parce que on passe vraiment par des endroits qui sont complètement différents. On court de nuit et de jour avec des températures qui peuvent être vraiment différentes entre le jour et la nuit. Et c'est une course qui est très très populaire. Il y a une vraie ferveur autour de cette course. C'est vraiment l'événement sur l'île. En fait, les conditions d'accès à cette course sont finalement assez simples. En faisant, à peu près, alors j'ai plus les ratios en tête, mais une course de 100 km et avec un peu de dénivelé, on peut arriver à avoir une course qualificative pour s'inscrire. Et puis en prenant un package un an à l'avance, on assure aussi son dossard. Donc du coup, ça fait que les conditions étant relativement simples pour s'inscrire, il y a énormément de monde et c'est ce qui rend aussi cette course hyper populaire. Pour beaucoup de gens, c'est un peu le défi d'une vie ou la course d'une vie. En plus, les gens viennent à la réunion en famille. Donc il y a beaucoup de monde qui sont là pour encourager, il y a beaucoup de monde sur les sentiers. Je me disais à l'époque, il faut absolument que je la fasse un jour. L'année de la Diag, je m'étais mis quelques courses objectifs avant pour pouvoir monter au fur et à mesure de l'année en puissance, on va dire, sur les entraînements. Donc j'avais commencé en début d'année par un marathon. Et un double objectif, le premier c'était de travailler la vitesse, Et puis le deuxième, c'était passer sous la barre des 3 heures, parce que j'étais jamais passé sous les 3 heures au marathon, donc c'était un petit objectif perso. Donc j'ai bien suivi un plan d'entraînement pour passer sous les 3 heures. Et j'ai fait ça, en fait, je m'étais inscrit au marathon de Rotterdam, et j'ai fait 2h56 à Rotterdam. Donc c'était cool. Ensuite, j'ai commencé un peu plus les trails avec du dénivelé. Donc j'ai fait un premier trail à Madère, un 60 km, le Mute à Madère. 60 km avec 3000 mètres de dénivelé, ça c'était fin avril. Puis en juin, j'ai fait le Lavaredo, dans les Dolomites, qui était un 120 km avec quasiment 5000 ou 6000 de dénivelé. Et donc ça, c'était un peu l'objectif principal avant la Diag, qui permettait de faire à la fois une longue distance et du dénivelé. Et ensuite, je passais pas mal de temps en montagne l'été à faire du vélo et du trail. Et j'avais refait un trail aussi un mois avant la Diag, un 60 km à Nice, avec 3500 mètres de dénivelé. Voilà, j'avais ponctué l'année en fait de ces courses à la fois plaisir et objectif. Et puis entre chaque course, pas mal d'entraînement avec notamment axé sur la deuxième partie de l'année, le dénivelé. J'ai eu la chance de pouvoir poser quasiment 2 semaines de vacances à La Réunion. Donc ça, c'est le premier point, c'est quand même vachement confort. En plus, j'allais pas seul, j'allais avec un pote, Hippolyte, avec qui on a fait quasiment toutes nos courses ensemble depuis 2 ans. Et j'avais également mes parents qui étaient présents pour me faire l'assistance. Donc j'étais vraiment dans de super dispositions, le meilleur confort possible, sans stress par rapport au boulot, avec les amis, la famille. C'est assez important quand on fait une course comme ça. Ça m'a permis d'arriver déjà bien reposé, dans un état d'esprit super positif. Quand j'ai préparé ma course, ce qui m'a pas mal aidé, en fait j'ai lu beaucoup de rapports de course. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, de gens qui se filmaient, ne serait-ce que pour m'imprégner un peu du parcours et de l'ambiance et des paysages. Ça me permet un peu de me projeter sur le profil. Et puis aussi, j'avais vraiment appris le profil de la course par cœur. Les points de ravito, les distances et dénivelés. Et ça, c'est aussi, ça m'a pas mal aidé, je pense, parce que en fait, ça permettait de toujours me repérer et de savoir où j'en étais et ce qui me restait à faire étape par étape. Et de se fixer comme ça des petites étapes au fur et à mesure de la course. Je savais, par exemple, qu'en bas de Roche-Plate, j'avais 600 mètres à monter. Je savais en bas du Colorado que j'avais 900 mètres à monter et 10 km. Voilà. Le premier objectif, c'était vraiment de finir. On va dire que ça, c'était l'objectif ultime. J'ai déjà fait des DNF, des abandons sur des courses. C'est jamais très drôle. En plus, c'est une course qui arrive en fin de saison, en octobre. On peut être un peu fatigué de l'année. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver le plus reposé possible et d'arriver au bout. Ça, c'était le premier point. Ensuite, c'est vrai qu'avec les courses précédentes que j'avais faites, j'avais un peu des chronos en tête. Et je connaissais un peu mes allures. Et par rapport aussi à ma cote ITRA ou à un index UTMB, je savais à peu près comment me situer. Et je savais que je pouvais faire un top 100 et moins de 35 heures. Donc ça, on va dire que c'était l'objectif temps. Et puis je m'étais dit quand même, je connais pas la distance, mais en fait, si vraiment j'arrive à tenir mes allures jusqu'au bout et que je suis vraiment dans mes chronos, en fait, 30 heures et top 50, ça peut être jouable. Donc je m'étais fait quand même un petit tableau avec ces chronos pour essayer d'aller chercher les 30 heures. Le départ, c'était un moment assez incroyable parce qu'il y a vraiment une ambiance de folie. Il y a beaucoup de monde sur le bord de la route, il y a des concerts, feux d'artifice. Le speaker, la Ludo Collet, met vraiment l'ambiance. Et puis, en fait, on réalise que ça y est, c'est le grand moment, quoi. On va partir pour s'élancer pour la Diag. C'était un peu un rêve pour moi de participer à cette course. Je connaissais pas mal de monde qui participait cette année-là à la Diag. Donc, il y avait Hippolyte, mais il y avait aussi Stéphane. Et j'avais d'autres potes aussi qui étaient présents. Alors malheureusement, Hippolyte, lui, il était pas dans la même vague que moi, il était 10 minutes derrière. Donc je me suis retrouvé, seul dans cette vague. Ça part hyper vite sur la Diag. Je crois que les premiers, j'étais en avant de la première vague, j'étais, je pense, pas loin de 4 minutes au kilomètre et je me faisais doubler dans tous les sens. Donc c'était vraiment impressionnant. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans la course au départ. Parce que justement, avec ce côté euphorie, ce stress, cette énergie qu'il y a tout autour de nous, j'arrivais pas à trouver mon rythme. Je sentais que mon cardio s'emballait très vite et dans les premières montées, j'étais pas hyper en forme ou hyper confiant sur le début de la course. Jusqu'au premier ravito, qui est au kilomètre 14, c'était un peu compliqué. Et j'avais aussi, je sais pas si j'avais oublié de m'alimenter ou j'avais du mal à m'alimenter, mais je me rends compte que, en fait, passer le premier ravito, une heure et demie de course, j'avais toujours rien mangé, quasiment. Et là, je continue toujours à me faire doubler un peu dans tous les sens. D'ailleurs, c'est pas long après ce ravito que Hippolyte me rattrape. Et en fait, j'essaie pas du tout de suivre. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me dis « Ok, bon, on va essayer de se calmer ». En fait, je me suis souvenu d'un mantra et d'un conseil qu'avait donné sur les réseaux sociaux François Daen à Courtenay, qui disait « Keep moving, keep eating et no stress ». Donc en fait, je me suis répété ça dans ma tête, keep eating, keep moving, no stress. Donc je me suis forcé à manger, j'ai un peu ralenti mon rythme. Et à partir de là, j'ai commencé à rentrer un peu plus dans ma course. Au deuxième ravito, là, au kilomètre 30 à peu près, il y avait un ami d'Hippolyte qui était là, qui lui faisait l'assistance, que j'ai vu, qui me faisait aussi l'assistance à ce moment-là. Bon, en tout cas, je récupère un petit peu de nourriture. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis, moi, remis dans ma course, où j'ai pu un peu retrouver mon rythme, je me suis bien réalimenté. Et puis là, on commence à rentrer dans la nuit aussi. Là, j'ai commencé à mieux me sentir et à reprendre, on va dire, confiance. Alors la nuit, là, cette nuit-là, elle était un petit peu fraîche, donc j'ai assez rapidement mis ma veste. Mais elle était, en tout cas, le début de la nuit était assez clair. Je me souviens qu'on voyait les étoiles dans le ciel. J'étais pas fatigué, et j'avais retrouvé mon rythme. J'avançais sereinement. En fait, il faut savoir que la première partie de la course, on va dire les 40 premiers kilomètres, c'est quasiment que du dénivelé positif. On fait quasiment que monter, jusqu'à nez de bœuf à peu près. Et ensuite, on a une première petite descente là qui nous amène à Marabout au kilomètre 50. Et donc là, dans cette descente, je me sens bien. Là, je suis en train de regarder les étoiles et je me fais en fait rattraper par un pote que je pensais devant moi. Et lui, à ce moment-là, me dit ouais, en fait, j'ai fait une petite sieste à Notre-Dame-de-la-Paix au deuxième ravito parce que j'étais fatigué. Donc là, je repars. Et du coup, je me suis mis à le suivre dans la descente là en allant vers Marabout et ça m'a un peu redynamisé. Au milieu de la nuit, on arrive à Marabout. Et là, à Marabout, en fait, on réattaque une grande montée. Jusqu'à Coteau Kerguéven, c'est la grande montée qui monte vers le Piton des Neiges. Alors on va pas jusqu'au Piton des Neiges, mais on bascule avant, et ensuite on redescend à Sillaos. Et en fait, dans cette montée-là, fin de nuit, là je commence à rattraper pas mal de monde. Je suis bien dans ma course, j'avais retrouvé mon rythme, je m'étais bien alimenté. Je monte dans un bon pas, et en fait je vois que au fur et à mesure, je rattrape de plus en plus de personnes. Donc c'est marrant parce qu'en fait, en plus je rattrape des personnes que je connais, il y avait Sissi Cusso par exemple, qui m'avait doublé dès le départ. Je double aussi Cascade Verte malheureusement, qui lui s'était blessé, était tombé et marchait. Je rattrape aussi, pour ceux qui connaissent, Christophe Lesseau, qui est un très grand ultra-trailer. Et d'ailleurs avec lui, on bascule au sommet de Coteau Kerguéven. Et là on a un petit groupe de 5-6 coureurs. Et on fait, je me souviens de faire une super bonne descente, pareil bien dynamique, jusqu'à Sillaos. Et là, je me rappelle me voir dans cette descente-là en me disant nickel, tout va bien quoi. Le jour se lève, j'ai des super bonnes jambes, je fais une super descente. Bon, on arrive à Sillaos au kilomètre 70. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, dans cette descente-là, qui est principalement des marches, en fait, je me rappelle, je me remémore tous mes entraînements faits à Montmartre sur les marches. Et tout au long de la course, en fait, je vais me remémorer comme ça en montant et en descendant les marches tous les entraînements que j'ai pu faire à Montmartre sur la petite butte. Donc en fait, j'arrive à Sillaos au petit matin, je retrouve mes parents qui me font l'assistance. Première fois que je retrouve mes parents, et là, nickel. Donc je fais un petit ravito assez rapide, enfin je prends tout ce qu'il faut, je me ravitaille bien, je mange, je reprends mes barres. Ça fait toujours du bien de retrouver en fait ses parents, ou en tout cas des visages connus, et son assistance à un point. En fait, ça motive parce que alors je dis pas qu'on fait la course pour eux, mais en tout cas on a envie de donner bonne figure et d'arriver avec le sourire, et puis ils sont là aussi pour moi, donc c'est un moyen de leur montrer que ce qu'ils font c'est utile, et c'est un vrai moment de partage à chaque fois. Je reste pas hyper longtemps, j'essaie de pas rester trop longtemps, donc je repars pour vraiment attaquer la montée du Taibit, la fameuse montée du Taibit. Je crois qu'il fait à peu près 1500 mètres de dénivelé, qui est pas hyper dur, en tout cas à ce moment-là de la course, moi je la passe plutôt bien. C'est pas une montée qui est très raide, bon elle est longue, mais elle est pas très très raide. Et là pareil, en fait, au fur et à mesure de la montée, je rattrape du monde. Donc moi ça me met dans une super dynamique. Et je me souviens en fait arriver tout en haut du sommet du Taibit, vraiment en passant le col, où là on sait qu'on va rentrer dans Mafate. Et là c'est une sensation un peu particulière parce qu'on voit toute cette jungle devant nous, on sait que ça y est, on va passer la journée à courir, et on sait qu'une fois qu'on rentre dans Mafate, en fait, il faut qu'on ressorte, parce qu'il n'y a pas d'autre accès que d'y aller à pied. Donc c'est vraiment un moment particulier, cette sensation-là, de passer le sommet du Taibit, là, au col, et de rentrer dans Mafate. C'est quelque chose vraiment qui me reste vraiment en mémoire comme un passage assez marquant de la course, parce qu'on rentre dans une autre dimension, là. Bah, à ce moment-là, j'étais toujours en forme, donc je réattaque, et puis on attaque une petite descente pour arriver au ravito de Marla. Alors Marla, c'est assez sympa, c'est un tout petit ravito comme ça, qui est perdu au milieu du cirque, et il y a vraiment une ambiance assez sympa. Et d'ailleurs, tous les ravitos de Mafate sont tous différents, mais ont tous une petite ambiance particulière, parce que je sais pas si c'est soit les gens locaux qui sont sur place, ou le staff, les bénévoles, mais il y a toujours, quand on arrive sur chaque petit ravito comme ça, toujours une ambiance sympa, presque une ambiance de fête et un peu reposante aussi. Premier habito, Marla, tout va bien. Vraiment, je passe sentier scout. Ensuite, on redescend à la Plaine des Merles. Alors, Plaine des Merles, j'avais la chance d'avoir un ami d'Hippolyte qui était présent à cet endroit-là, qui avait fait tout le trajet à pied pour venir nous voir. Il m'a fait aussi une petite assistance. Donc, pareil, c'est assez sympa. Ça fait du bien. Ça me permet un peu de me ravitailler. Ça va toujours aussi bien. Les jambes vont bien, la tête va bien. Pas spécialement fatigué, donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça, et en fait, tout ma fat, je vais le passer comme ça, à rattraper du monde un peu au fur et à mesure, bien enchaîner les descentes au fur et à mesure, et puis arriver toujours à remettre un peu d'énergie dans les montées. Je me pose pas trop la question de la place et du chrono à ce moment-là, bah, juste que je suis dans mes temps. Alors, je sais qu'à Silos, j'avais, mes parents me disent que j'avais 30 minutes de retard à peu près sur Hippolyte. À Plaine des Merles, quand je croise son ami, là, il me dit pareil que j'ai 30 minutes de retard. Du coup, je me dis, bah, tiens, c'est cool, j'ai arrêté de perdre du temps, je continue à avancer. Et, mais en fait, je sais pas du tout à quelle position, ni vraiment quel temps je suis, parce que c'est vrai que dans ces efforts-là, au bout d'un moment, on perd quand même un peu la notion du temps, quoi. Même si de temps en temps, je regarde mon chrono, en fait, je le regardais plus pour avoir un repère pour m'alimenter que vraiment savoir quelle heure il était. Je savais à Silaos que j'étais à peu près dans mes temps de passage, à un ou quart d'heure près. Et je savais à peu près, quand je suis arrivé à la sortie de ma fat, à deux bras, là où mes parents m'attendaient, que pareil, j'étais à peu près dans mes temps de passage à 15 minutes. Par contre, en termes de classement, je savais pas trop où j'en étais. Donc j'arrive à deux bras, qui est le dernier ravito, là, juste avant de sortir de ma fat, où je retrouve mon assistance. Je crois que je suis à peu près à... Je dois être à 21h ou 22h de course. Je suis hyper en forme. Mmh. Et du coup, là, je me dis, waouh, j'ai quand même fait 120 km. Je me souviens, j'arrive encore à courir assez bien en arrivant au ravito. Et presque je m'étonne moi-même d'arriver aussi en forme à ce moment-là. Il faisait encore à peu près jour. Là, pareil, je fais le check-up en arrivant à deux bras et tout va bien. Et ce qui était assez rigolo, c'est que du coup, aussi en arrivant à deux bras, bah, je retrouve Hippolyte. J'avais rattrapé Hippolyte, qui lui, en fait, malheureusement, a commencé à avoir des douleurs un peu au genou. Et du coup, est vite passé se faire un peu strapper avant de réattaquer la sortie de ma fat. Je me ravitaille, je prends le temps de quand même bien me ravitailler, de refaire le stock de nourriture, mais je reste pas non plus hyper longtemps. Et là, je réattaque direct la montée qui nous amène à Dedan. On a une grande montée assez raide là, pour sortir de ma fat. Et en fait, dans cette montée, Hippolyte, qui était parti voir les kinés, me rattrape en me disant bah, « Nickel, ils m'ont strappé, tout va bien. Je suis reparti, je suis neuf. » Et donc là, on fait une montée hyper énergique pour sortir de ma fat. Je me demande si elle m'a pas un peu d'ailleurs grillé cette montée, mais en tout cas, on a un super rythme et on continue à rattraper du monde dans la montée et en haut de la montée. Donc on arrive à Dedan. Et on bascule. Et juste après Dedan, en fait, on arrive à un tout petit ravito avant d'attaquer le chemin Ratineau, puis le chemin des Anglais et la fin de la course. Et donc là, à ce moment-là, il reste à peu près je crois 30 km, 35. Et c'est là où le bénévole nous dit « Oh, c'est super les gars, vous êtes 35, 36. » Et là, je fais « Waouh !» En fait, j'avais pas réalisé jusqu'avant. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis dit « Waouh, trop bien !» J'ai fait le plus dur, je suis sorti de ma fat, je suis 35e, j'ai réussi ma course, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, non, pas du tout. En repartant du ravito, bah, d'une part, j'avais sous-estimé la difficulté du chemin à Ratineau, là, avec Alak, qui est une horreur. C'est limite de l'acrobranche, ce truc. Et en fait, je pense que mentalement, là, j'ai commencé à un peu me ramollir. J'ai perdu un peu d'énergie. Je pense que le fait de me dire, OK, je vais finir en gestion, tranquille, fait que bah, le corps et le cerveau relâchent un peu tout. Et là, j'ai eu un passage un peu compliqué. C'était mon premier passage ouais, vraiment compliqué de la course. En plus, comme j'avais mangé pas mal de gel, je m'étais bien alimenté tout au long du parcours, je commençais à voir que j'allais peut-être manquer un peu de nourriture sur la fin. Donc je m'étais aussi un petit peu rationné en nourriture, et ça m'a peut-être aussi un petit peu joué défaut à ce moment-là. Donc là, j'ai eu un moment, en arrivant en tout cas jusqu'à Possession, entre ouais, chemin Ratineau-Cala et Possession, où je me suis fait un peu violence pour essayer de me remotiver et de me remettre dans une dynamique positive. Donc, je me suis rappelé le mantra et j'ai essayé de me réalimenter, de me forcer. En plus, la fatigue commençait vraiment à arriver. On rentrait dans la deuxième nuit. Donc ça a été un passage assez intéressant pour essayer vraiment de remettre du positif et de se remotiver. Du coup, oui, Hippolyte était reparti devant, et pareil, le gars que j'avais rencontré avec qui on était depuis Orashpat était aussi reparti devant. Donc je me retrouvais un peu tout seul à ce moment-là. En plus, on était très étirés au niveau de la course. Ouais, je me retrouve tout seul à essayer vraiment de quand même me forcer à courir quand je pouvais, relancer quand je pouvais, et ouais, continuer à remettre du positif en sachant que bah, il me restait quand même 30 km à faire, quoi, ce qui est pas rien. Alors là, sur la fin de la course, sur les deux derniers ravitaux, position Grande Chaloupe, notre assistance peut venir, donc je retrouve mes parents. Ils voient que j'accuse un peu le coup, mais voilà, bon, pareil, je reste pas, et du coup, pas hyper longtemps, je me réalimente, et j'essaie de repartir quand même le plus vite possible. Et là, j'attaque le chemin des Anglais, le fameux chemin des Anglais. Donc je fais de nuit, et ça a été, je pense, le moment où j'ai le plus subi la fatigue. Parce que j'étais encore dans cet état un peu de relâchement, à vouloir y aller, mais à essayer de constamment de me dire, est-ce que je sens que la fatigue est là, mais il faut que je me force, mais j'ai du mal à repartir. Et puis en plus, comme j'étais vraiment tout seul à ce moment-là, personne devant, personne derrière, à part de temps en temps un relais Zombroka qui me rattrapait ou qui me doublait, ouais, ça a été un moment un peu plus compliqué à gérer. Et il y a juste en fait, en finissant la montée là, du chemin des Anglais, en rebasculant pour arriver vers Grande Chaloupe, là, je me refais doubler par un relais. Je sais pas pourquoi, ça me redynamise, ça me remotive. Et donc, je réattaque la descente, je retrouve un peu d'énergie. Sauf que là, je commence à vraiment sentir des ampoules au niveau de mes pieds qui me font bien mal. Donc, la descente est un peu compliquée, même si je retrouve l'envie. De par les ampoules, j'ai un peu gêné. Mais j'arrive à Grande Chaloupe, qui est le dernier ravito où je retrouve mes parents avant l'arrivée. Bah, du coup, ça va mieux, en fait. J'ai retrouvé un regain d'énergie. Je me sens bien, je m'alimente bien. Et en fait, je pense que je sais aussi que mentalement, il me reste juste la dernière montée du Colorado à faire, qui n'est pas forcément compliquée, mais qui est longue. Et puis ensuite, la dernière descente pour arriver sur le stade de la Redoute et passer l'arche. Je repars de Grande Chaloupe, je suis hyper motivé. À partir de chemin Ratino-Cala, en fait, ma montre s'éteint. J'avais plus assez de batterie et j'avais oublié le câble pour la recharger sur le ravito. Donc j'avais aussi complètement perdu la notion du temps. Le seul truc, c'est que comme j'avais appris le profil par cœur, en fait, je savais exactement ce qui me restait à minima comme kilomètres et comme dénivelé en passant certains points et certains repères. Là, je savais que en passant le ravito de Grande Chaloupe, il me restait le Colorado à monter à peu près 10 km et 900 mètres de dénivelé, et ensuite la dernière descente 5 km pour arriver à la redoute. Donc je remets du rythme dans la montée du Colorado, mais là, c'était un moment assez rigolo parce qu'avec la fatigue, je commençais à avoir, pas des hallucinations, mais à voir des trucs un peu bizarres. Le cerveau qui fait un peu défaut.
Du genre,
tu vois un rocher qui ressemble à une chouette. Tu vois des gens allongés par terre, mais en fait, non, c'est juste des formes noires. À un moment, c'était rigolo aussi. En fait, j'entendais la musique, je me dis, tiens, c'est le ravito qui est pas loin. En fait, non, c'était juste des habitants qui faisaient la fête dans la colline. Et en fait, j'avais aussi l'impression de vivre un peu un rêve éveillé. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce que j'étais en train de faire. Et ça, pareil, je pense que c'est un peu particulier. C'est avec la fatigue, en fait, on a une impression de mémoire. On sait plus très bien si on l'a déjà fait ou si on est en train de le faire. Enfin, c'est des moments assez particuliers. Mais comme je suis à ce moment-là proche de l'arrivée, fatigué, mais content de presque arriver au bout, je sais pas, c'est plutôt un moment assez agréable, en fait. Mais toujours en essayant en ayant retrouvé un peu d'intensité, de dynamisme. Au dernier ravito, quand j'arrive au ravito juste avant la descente, je vois Hippolyte au loin, qui lui repart, attaque la descente. Donc je me dis, bah tiens, finalement, il est pas très loin devant. Je me dis, ouais, finalement, je monte pas si vite. Sauf qu'il y avait quand même un autre concurrent qui m'avait doublé juste avant la fin de la montée, que j'avais pas réussi à suivre. Et donc j'attaque la dernière descente, en serrant un peu les dents, parce que bon, les jambes commençaient à être un peu dures, mais j'avais aussi les ampoules qui me faisaient bien mal. Mais je me dis que voilà, c'est la dernière descente et on donne tout pour arriver au bout. Donc je serre les dents, je fais la descente, qui est assez longue, hein. Franchement, quand elle arrive au bout de 160 km, on la voit bien passer. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que juste avant la fin de la descente, je me refais encore doubler par un autre mec. Et là, je me dis, ah non, c'est pas quand même, c'est le deuxième. Donc j'essaye de le suivre et de m'accrocher. Il restait pas grand chose, je pense 100 mètres de dénivelé. J'arrive pas à le suivre, mais d'un seul coup, je me remotive et j'arrive à vraiment à recourir et à remettre du rythme. Et en recourant, je rattrape celui qui m'avait doublé dans la montée. Donc je me dis, cool, je reprends une place. Et là, je sais qu'il reste 1 km pour arriver même pas au stade. Donc je continue à courir, à courir, à courir. Et là, je pense que 200 mètres avant d'arriver dans le stade, qui je vois devant moi, Hippolyte, qui me voit arriver. Il me voit arriver tellement vite qu'il me fait « Oh là là, moi je sprinte pas pour finir. Hein. J'ai 10 minutes d'avance sur vous, je le rattrape pas, le mec qui est devant. » Je lui dis « Non, non, t'inquiète, on va pas rattraper celui qui est devant. Par contre, j'ai pas envie de me faire doubler par celui qui est derrière. » Je me retourne, je jette un œil pour voir. Il était quand même assez loin. Donc je fais « Bah c'est cool, on va pouvoir finir ensemble. » Et donc là, c'est assez incroyable parce qu'on rentre ensemble sur le stade de la Redoute et on passe ensemble à la ligne d'arrivée. Main dans la main, en 30h45, et on retrouve mes parents et Alex, le pote d'Hippolyte, qui était là. Et je finis donc 36e. En fait, c'est difficile de retenir juste une émotion ou une chose de cette aventure, parce que on fait vraiment l'ascenseur émotionnel. Mais en fait, ce que je retiens, c'est surtout l'euphorie de la course, quoi, du début à la fin. Bah, j'ai eu la chance, comme je disais, d'aborder cette course dans des bonnes conditions. Et j'ai vraiment essayé de toujours ramener du positif. Et cette course, ça m'a énormément apporté émotionnellement, en fait. Avec des moments très, très forts. Que ce soit ne serait-ce qu'au début de la course, avec ce départ un peu compliqué. Cette nuit qui a été vraiment chouette à regarder les étoiles. La traversée de Mafat qui a été vraiment incroyable, où j'ai pris énormément de plaisir. Puis la deuxième nuit qui arrive, où là, c'est devenu un peu plus difficile, il faut lutter avec la fatigue, mais en même temps, ce combat-là, il est assez intéressant au niveau mental, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que cette course-là, elle est vraiment, vraiment exceptionnelle. Alors ça a été rigolo parce que, en fait, physiquement, ça allait plutôt bien après la course, enfin, voir le lendemain ou sur le lendemain, j'avais pas tant de courbatures que ça. Par contre, j'avais un niveau de fatigue mentale assez fort. Je pense qu'il m'a fallu bien 3 ou 4 jours mentalement pour retrouver un peu de motivation. Enfin, il fallait pas me mettre une boîte mail et un fichier Excel là pendant 2-3 jours parce que j'aurais été incapable de faire quelque chose. Et en fait, c'est presque ça qui m'a le plus marqué après la course. C'est pas tant la fatigue physique, mais plus l'aspect mental. Peut-être parce que je suis allé chercher un peu loin aussi sur l'effort pour arriver à maintenir le rythme et aller au bout de la course. Mais ouais, c'était un aspect assez intéressant en fait de la récup. Sur le moment, on se dit waouh, est-ce que je pourrais refaire un truc pareil? Mais en fait, très très vite, on n'a qu'une envie, c'est de se relancer sur une aventure comme ça. Je pense que physiquement, c'est vrai que c'est difficile. Mentalement, je pense qu'on va puiser loin, mais ça nous apporte tellement d'émotions qu'en fait, on a envie de revivre ces moments-là.
Petit bond dans le futur. Près de 9 mois après sa Diagonale des Fous, le 5 juillet 2023, Edouard s'aligne au départ du Val d'Aran. Une bonne option pour lui rapporter des points dans l'espoir d'une qualification pour l'iconique UTMB. Mais tout ne se déroulera pas comme prévu. Edouard en tête de course se retrouve sous une averse de grêle, un orage d'une extrême violence sur un passage en crête très exposé. Comment réagir? Faire demi-tour ou continuer? Edouard nous racontera ce qu'il a vécu dans un prochain épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Team Trail Story est un podcast du Team Trail Paris, une association de coureurs parisiens dont le terrain de jeu favori est la montagne. Team Trail Story, c'est un épisode par mois pour vous faire vivre les aventures running et trail d'athlètes amateurs passionnés et passionnants. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.